Africa, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, toute l'équipe du débat BBC Afrique, Africa Radio est ravie de vous retrouver et nous sommes ensemble pendant une heure. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane Niacha, vous allez bien, j'espère.
Très bien, et on s'achemine doucement vers la fin d'année, Francis. Bientôt 2020.
Bientôt 2020, et ben, écoutez, il reste encore quelques jours quand même. Nous aurons tout à fait l'occasion de souhaiter le meilleur à nos auditeurs bientôt.
Tout à fait.
Premier sujet cette semaine. En tout cas, Liliane, c'est le Niger, hein, avec la vive émotion suscitée par l'attaque terroriste de mardi dernier contre le poste militaire d'Inates. La question est de savoir désormais quelle sera la réponse des autorités nigériennes.
Et en attendant, Francis, d'en savoir plus dans les semaines ou mois à venir. Pour l'instant, le pays est dans le recueillement puisque 3 jours de deuil national ont été décrétés à partir de vendredi en mémoire des 71 militaires qui ont péri dans cette attaque. C'est la plus meurtrière jamais enregistrée dans cette zone frontalière avec le Mali. Après la réunion du Conseil national de sécurité, qu'est-ce qui va changer dans la stratégie militaire ou de lutte contre des groupes armés ? Analyse dans cette émission.
Il s'appelle Abdelmajid Tebboune, c'est donc lui qui va succéder à Abdelaziz Bouteflika en Algérie, Liliane.
Élu dès le premier tour avec 58,15% des voix selon l'autorité de régulation des élections, le nouveau président algérien déclaré vainqueur du scrutin controversé de jeudi dernier est âgé de 74 ans. Même s'il s'est présenté en indépendant, Abdelmajid Tebboune est toujours membre du comité central du FNL, parti de son prédécesseur déchu Abdelaziz Bouteflika. Quelle incidence cette élection peut avoir sur la crise politique en cours ? Pourrait-elle contribuer à décrisper l'atmosphère électrique en Algérie depuis avril dernier ? Décryptage.
Et nous parlerons enfin d'un dossier judiciaire très commenté, l'affaire des biens mal acquis impliquant le vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang.
Le procès en appel du fils du président équato-guinéen accusé d'avoir acquis des biens personnels avec l'argent public de son pays s'est ouvert cette semaine en France. D'après des enquêteurs, certains de ces fonds auraient servi à acheter des résidences aux États-Unis et bien d'autres biens. La justice française a-t-elle ou non la légitimité de tenir un tel procès ? Le débat, c'est dans un instant. Francis, je vous laisse le micro pour la présentation de notre plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Niamey, Ibrahim Yacouba, ancien ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, président du parti Le Front Patriotique, pour le mouvement d'opposition au Niger. Ibrahim Yacouba, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour monsieur Laloupo, merci, bonjour madame.
Bonjour monsieur Yacouba.
Et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Alger, Faisal Metawi, journaliste à Radio M Algérie. Faisal Metawi, bonjour.
Il ne nous a pas encore rejoint, Francis.
Il va nous rejoindre tout à l'heure, bien entendu.
On l'espère bien.
Il sera avec nous. Petite fiche de présentation, comme de coutume, de notre grand témoin invité, Ibrahim Yacouba. Vous êtes né en 1971, détenteur d'un DESS en gestion des ressources humaines, cadre des finances et ancien syndicaliste. Vous avez été le porte-parole du Conseil national de transition sous le régime du général Salou Djibo en 2010, ministre des Transports entre 2012 et 2013. Vous occuperez le poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République, puis les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Niger de 2016 à 2018. Vous avez quitté le gouvernement en avril 2018 en raison de votre opposition à la loi électorale. Vous êtes depuis l'année dernière le président du Front Patriotique, plateforme de l'opposition politique nigérienne. Militant altermondialiste, vous avez été notamment le coordonnateur du mouvement contre la guerre en Irak en 2003. Et entre autres distinctions honorifiques, vous avez été fait grand officier de l'Ordre national du Niger, officier de la Légion d'honneur française en 2016 et médaille d'honneur des douanes nigériennes. Ibrahim Yacouba, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Liliane, premier sujet, le Niger.
Et la plus belle des morts est la mort pour sa patrie, les armes à la main. Déclaration du président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a présidé jeudi la réunion du Conseil national de sécurité après avoir écourté une visite à l'étranger suite à l'attaque contre le poste militaire d'Inates, ville située dans l'ouest du Niger et à 250 km de la capitale Niamey. Cet hommage n'a pas suffi à apaiser les Nigériens qui s'interrogent. Beaucoup sont en colère et disent ne pas comprendre comment une colonne de djihadistes a pu circuler et cibler un poste militaire sans être repéré. Monsieur le ministre Ibrahim Yacouba, est-ce que vous vous êtes posé la même question et cette attaque n'est-elle pas réellement l'attaque de trop ?
On s'est posé cette question et bien d'autres questions, mais on a d'abord souffert dans notre chair. Vous l'avez si bien évoqué tout à l'heure. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les hommes au Niger. Donc vous imaginez la douleur des Nigériens dans ce contexte. Et les questions, on s'est posé beaucoup de questions. Comment cela a pu arriver ? D'autant plus que cette base a été attaquée déjà en juillet, avec un bilan aussi à l'époque assez lourd. Donc on se rend compte que nous payons aussi le comportement de nos gouvernements en général dans le Sahel. Première des choses que ces gouvernements ne reconnaissent pas, c'est que les mouvements terroristes dans le Sahel sont devenus très puissants avec des capacités de feu extraordinaires. Ils sont devenus presque professionnels dans le combat qu'ils sont en train de mener. Et surtout, ces groupes-là ont une emprise réelle sur un certain nombre de parties de nos territoires. C'est la possibilité qu'ils ont de se mouvoir librement sur une grande partie du territoire ou des territoires frontaliers du Niger, du Burkina et du Mali. C'est ça qui leur permet de manœuvrer et de porter des
coups comme celui qu'on a vu. Et vous pensez que les autorités, ou vous êtes en train de nous dire que les autorités n'ont peut-être pas pris conscience de la force désormais redoutable des groupes terroristes et n'apportent pas une réponse adéquate à cela ?
Oui, on n'a pas une stratégie qui est à la hauteur de la menace. On ne l'a pas. La plupart aujourd'hui, s'agissant particulièrement du Niger, quand vous regardez, tous les bilans lourds qu'on a eus sont du fait des attaques que nos positions ont subies. C'est la même chose au Mali, c'est la même chose au Burkina. Donc les groupes qui sont à l'offensive actuellement, ce sont les groupes terroristes. Ce ne sont pas nos armées qui sont dans des positions offensives pour détruire l'ennemi, dont on connaît le positionnement et après même le nombre de combattants. Il n'y a, je pense, dans l'histoire, aucun exemple où une stratégie défensive a pu faire gagner la guerre. Ça, nous devons le savoir à partir du moment où nous savons que ces groupes ont tendance à être plus forts, plus grands et à attirer chaque jour davantage des jeunes. Ensuite, nous savons tous que dans la plupart des villages frontaliers du Mali, du Burkina et du Niger, il y a des zones qui sont totalement sous l'emprise des groupes terroristes. Ils sont tellement bien établis dans ces zones vous avez vu, la plupart du temps, ils tuent les chefs traditionnels pour créer la terreur et faire peur aux populations. Et ils le font de jour ou de nuit dans l'agenda qu'ils ont fixé. Ces groupes terroristes-là font la loi et prélèvent l'impôt dans ces zones-là. Nos États ont en réalité reculé de beaucoup d'espace dans la frontière des trois pays qui nous unissent. Donc, il y a une réalité de terrain qui est très mauvaise, qui est du fait d'une mauvaise stratégie que nous avons mise en place, qui consiste à dire que nous allons continuer à subir les attaques des groupes.
Merci. Vous me diriez tout à l'heure comment mieux faire,
Francis. Puisque vous parlez de la stratégie, Monsieur le ministre Ibrahim Yacouba, et depuis 2012, on le sait, le Niger a voulu être à l'avant-garde du combat contre les groupes armés. Et l'armée nigérienne a été sur plusieurs fronts, au Mali, il y a eu la coalition contre Boko Haram. Tout ça n'a pas empêché, au fond, le Niger de subir plusieurs attaques sur son propre sol. Est-ce que ce qui vient de se passer à Inates pourrait entraîner, selon vous, une reconfiguration de la politique sécuritaire du Niger sur le propre sol du Niger ?
Je souhaite qu'il y ait une configuration, parce que sans cette reconfiguration nécessaire, la situation va encore se dégrader. Je vous rappelle, M. Laloupo, que même les Nations Unies, on dit que la situation sécuritaire s'est dégradée et que les groupes terroristes ont pris de l'ampleur. Donc on ne peut pas, année après année, constater que les groupes terroristes progressent et que nous maintenions la même stratégie. Notre stratégie, elle est mauvaise. La stratégie de dire que nos armées seront sur des positions défensives, elle est mauvaise. La stratégie d'avoir une force comme la MINUSMA, avec plus de 13 000 hommes, qui coûtent presque 1 milliard de dollars, Et dire que cette force ne participe pas au combat contre le terrorisme, c'est une très mauvaise stratégie. Et c'est même c'est quasiment du non-sens dans la situation actuelle. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas relever du bon sens en matière du combat contre le terrorisme. Nous travaillons à éradiquer les groupes terroristes. Comment donc on peut avoir des milliers d'hommes avec des milliers d'équipements matériels performants, avec un coût aussi élevé que l'aménagement, et dire qu'ils maintiennent la paix? Ils ne maintiennent pas la paix puisqu'il faut la gagner, cette paix, d'abord, en réduisant les groupes terroristes. Donc, que ce soit la stratégie du point de vue international, du point de vue de nos États, des choses sont à corriger. Et ce n'est pas une opinion. C'est le résultat, la succession des attaques au Niger, au Burkina et au Mali qui nous amène à indiquer et à demander que la stratégie soit révisée et très vite.
Comment évaluez-vous aujourd'hui, Ibrahim Yacouba, les capacités réelles de l'armée nationale nigérienne, quand on sait que sur le sol nigérien aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs étrangers, des éléments français, américains, ceux venus de certains pays d'Europe. Alors, est-ce que ces éléments d'appui étrangers ont permis de renforcer les capacités de l'armée nigérienne, ou ils ont plutôt, je dirais, compliqué la gestion du terrain par l'armée nationale?
Bon, je ne sais pas si elles ont compliqué la situation, mais le fait est que le résultat n'est pas proportionnel au nombre de militaires étrangers qui sont au Sahel, au nombre des opérations que ces militaires disent mener. Il suffit de regarder la dégradation de la sécurité. Et la dégradation de la sécurité, c'est des faits objectifs qu'il faut regarder. Vous constaterez que le nombre des zones affectées, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, ce nombre-là a pris de l'ampleur. Ça veut dire qu'en termes d'occupation de terrain ou des zones affectées par le terrorisme, c'est les terroristes qui ont marqué de point. Maintenant, en termes de nombre d'attaques, le nombre aussi a augmenté, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina. Et les stratégies d'attaque contre nos forces sont devenues plus fortes, plus professionnelles, plus lourdes, et conséquemment avec des bilans lourds sur nos forces régulières. Donc vous voyez, quels que soient les indicateurs militaires minimum que vous prenez, il y a un problème que la présence des forces étrangères n'a pas permis de régler. Et ça, c'est quand même ça qui est assez dommage, parce que le nombre est important.
Je vous pose la question, monsieur le ministre, parce qu'on a le sentiment que de plus en plus, l'armée nationale est en réaction et n'est pas à l'initiative. Parce que vous vous souvenez, certains éléments de l'armée nigérienne se sont parfois plaints des difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain du fait de l'absence de coordination, par exemple, entre eux et des éléments étrangers, notamment américains. Est-ce que aujourd'hui, l'État nigérien, a, je dirais, une vision globale de toute les stratégies militaires qui sont déployées sur le sol nigérien?
Je ne pourrais pas répondre à la place des autorités officielles du Niger qui peuvent dire si elles pensent que la coordination existe. Mais jusqu'à 2 ans où je pouvais le savoir, j'ai pu vous affirmer que la coordination, comme vous le dites exactement, était mauvaise et souvent inexistante entre nos armées. Et c'est d'ailleurs ce que l'opinion déplore, parce que l'opinion dit souvent comment est-ce qu'il est possible que des colonnes fortes avancent des kilomètres et souvent en plein jour et à découvert sans que les capacités extérieures ou même nationales puissent les détecter. C'est le ministre du Niger même l'a dit il y a 2 ou 3 jours en charge de la défense. Donc il y a un vrai problème de coordination, un vrai peut-être même problème de fonctionnement.
Mais monsieur Yacouba, excusez-moi de vous interrompre, mais si le ministre de la Défense se pose lui-même la question, est-ce que ce n'est pas finalement un peu inquiétant que le ministre lui-même se demande comment cette colonne a pu pénétrer le territoire nigérien et opérer ainsi en attaquant un poste militaire?
C'est plus qu'inquiétant, madame, c'est même effrayant. Parce que c'est lui qui doit nous donner les réponses. C'est lui qui est censé garantir, assurer cette coordination et faire en sorte que jamais une colonne forte d'hommes et du matériel ne puisse traverser le pays à découvert et nous porter des attaques aussi lourdes. Donc vous avez raison. Je pense que c'est même très effrayant et cela a été dénoncé. Mais cela montre que nous avons des gouvernements qui sont ou désarmés ou qui sont complètement affaiblis devant la question. Mais c'est le fruit d'un processus de nos gouvernements. Mali, Burkina, Niger, ils ont pensé que les forces étrangères ou les partenaires étrangers qu'ils avaient étaient à eux seuls assez dissuasifs ou effrayant pour qu'il ne soit pas attaqué par le groupe terroriste. On se rend compte que c'est une mauvaise posture.
Puisque les attaques se sont multipliées, vous l'avez dit. Monsieur Yacoub, avant de poursuivre avec vous, Francis, juste signaler que notre confrère Ousseynou Nargué nous a rejoint. Merci à vous, Ousseynou Nargué, fondateur du site d'information Trac.sn, parce que nous n'arrivons toujours pas à joindre notre confrère Faisal Metaoui qui devait être avec nous, Francis Laloupo. Je voudrais donc vous demander, monsieur le ministre, vous dites que la stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre les groupes terroristes est mauvaise. Vous vous demandez pourquoi les forces de la MINUSMA ne participent pas au combat et à la lutte contre les groupes terroristes. Pour quitter cette position défensive que vous décriez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous suggérez comme stratégie ou mesure pour que les forces armées nigériennes, maliennes ou même burkinabées confrontées à ces attaques puissent passer à une étape, à une lutte plus offensive plutôt que défensive?
Oui, avant de répondre à la question s'agissant de la MINUSMA, non, je sais pourquoi la MINUSMA n'agit pas. C'est en vertu du mandat que les Nations Unies lui ont confié. Voilà, mais je dis que ce mandat est inapproprié et il est inutile pour le Sahel. On ne peut pas mettre en place une opération aussi chère, aussi forte en nombre, mais qui est devenue l'opération la plus meurtrière pour ses propres éléments et la plus inefficace pour la situation de la sécurité. Donc mon plaidoyer, c'est de dire qu'il est temps que les Nations Unies s'assument et que les pays du Sahel
changent de mandat de la MINUSMA.
Absolument. Ça, c'est
maintenant sur les propositions.
C'est la stratégie qu'il faut changer, madame.
En faisant quoi précisément?
Nous devons passer à l'offensive. Nous devons nous organiser pour attaquer les groupes terroristes et les réduire là où ils sont.
Oui, que feriez-vous si vous êtes président ou vous êtes élu à l'issue des élections prochaines au Niger? Que feriez-vous que ne fait pas le président Mouamadou Issoufou?
C'est aller à l'offensive contre les groupes terroristes et ne pas leur permettre de nous attaquer sur notre territoire. Le chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, organise la politique de la défense. Mon choix en matière de sécurité, c'est d'être toujours sur l'offensive face à un ennemi qui est déjà connu et dont on connaît les capacités et la localisation.
Et pourquoi l'actuel président ne le fait pas, selon vous? Puisque l'idée est
je ne peux pas répondre à sa place, mais je constate qu'il ne le fait pas.
Donc vous voulez dire qu'il a les moyens de le faire, mais refuse d'aller vers les propositions que vous faites?
C'est la Constitution qui fait de lui le chef suprême des armées et qui donne les capacités d'organiser la sécurité de notre pays selon ce qu'il pense être utile pour la sécurité du moment. Et aujourd'hui, ce que je pense être utile pour la sécurité du Niger et du Sahel, c'est de ne plus accepter ou de subir les assauts des groupes terroristes.
Mais vous le dites, M. Yacouba, mais vous ne proposez pas concrètement qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut réarmer les forces de défense? Est-ce qu'il faut revoir la stratégie de renseignement? Vous n'êtes pas concret dans vos propositions.
Ce n'est pas la stratégie qu'il faut chercher. Elle est connue. Tous les pays qui se protègent sont des pays qui vont à l'offensive. Ce que nous demandons à notre pays et au pays du Sahel, c'est d'aller à l'offensive contre les groupes terroristes. Ce n'est pas une demande extraordinaire, c'est une demande normale dans le comportement des armées. Il faut organiser, donner le moyen, mettre en œuvre la stratégie qui nous permet d'attaquer l'ennemi là où il se trouve. C'est ce qui n'a pas été fait au Mali et qui a fait que la situation s'est dégradée. C'est ce qui n'a pas été encore fait dans notre pays sur la frontière avec le Mali et qui fait que chaque jour le mal grossit, et c'est ce qui est arrivé au Burkina. Donc les pays du Sahel, mais au fond madame, c'était ça même l'idée du G5 Sahel. Donc même les politiques sont conscients que c'est ça la bonne stratégie. Le G5 Sahel a été conçu comme un moyen endogène de mutualisation de nos armées qui vont être capable de porter l'offensive là où il faut.
Merci
à
beaucoup.
Partir du moment où on a fait le constat que la MINUSMA ne le fait pas.
Merci, on marque une pause.
Tout le monde connaît la stratégie.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Et notre grand témoin invité au téléphone depuis Niamey, Ibrahim Yacouba, ancien ministre nigérien et président du parti Le Front Patriotique, parti de l'opposition au Niger. Un confrère invité, il est avec vous, Liliane, dans le studio BBC Afrique à Dakar.
Il est au téléphone, Francis Laloupo. Je comprends, vous n'avez pas. Oui, il est au téléphone. Ousseynou Narguéï, fondateur, journaliste et fondateur du site d'information Tract.sn.
D'accord. Alors, avant de reprendre le débat, enfin l'interview sur le Niger, Ibrahim Yacouba, je voulais votre réaction sur une actualité. On sait que suite à cette attaque contre le camp d'Inates, le sommet qui devait réunir à Pau, en France, Emmanuel Macron et ses homologues nigériens, mauritaniens, maliens, burkinabés et tchadiens, ce sommet a été reporté. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce sommet, désormais reporté, qui a été perçu par l'opinion comme une sorte de convocation adressée aux dirigeants africains par leurs homologues français?
Non, il était très clair que la formule, les mots et les méthodes que le président français avait utilisées par rapport à cette réunion étaient effectivement une convocation. C'était pas bien vu du point de vue de l'opinion au Sahel, et je pense que c'est pas bien vu du point de vue du respect qui doit être dû à nos chefs d'État. Ce sont des présidents des républiques souveraines qui nous représentent, et je pense que la diplomatie a été conçue pour mettre en forme les moyens par lesquels les chefs d'État se parlent et se concertent. Et je pense qu'en cette circonstance-là, ni la méthode ni la forme n'étaient convenables. Pour dire la vérité, je pense que ce n'était pas des formes et des méthodes acceptables. Premièrement. Deuxièmement, sur la question de la sécurité dans le Sahel, c'est important que les réunions se fassent ici. C'est chez nous que la question se pose. C'est chez nous que les difficultés d'interprétation de la présence des troupes étrangères se posent. Moi, j'aurais voulu, moi, à la place du président français, je serais venu au Sahel, respecter et respectueusement rencontrer les présidents de la zone, et puis parler dans ce cadre-là. Mais je pense que ils ont utilisé la première occasion pour le reporter parce que c'était devenu très gênant.
L'attaque d'Inates est un prétexte, a servi juste de prétexte aux Français pour reporter ce sommet.
Il est clair qu'ils étaient coincés sur l'appréciation que l'opinion avait de cette convocation. Je suis absolument convaincu que plus les jours passaient, plus l'opinion devenait profondément remontée contre cette formule-là. Parce que je vous ai dit que quand même, c'est la diplomatie qui...
Oui, vous l'avez dit, mais je demandais, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir reporté le sommet à janvier prochain, juste que le prétexte qui a servi au report, c'est-à-dire les attaques d'Inates, qu'un argument pour reporter ce sommet?
Oui, moi, le drame d'Inates est tellement lourd que je ne veux pas utiliser prétexte s'agissant du drame, mais je sais que ils étaient très coincés sur cette réunion, et à la première occasion, ils ont dû réajuster et puis trouver une formule plus convenable pour eux-mêmes, leur image, et pour l'opinion qui était remontée contre ça.
On va demander un commentaire à Ousseynou Narguéï sur la situation au Sahel, mais précisément sur les événements dans le camp d'Inates au Niger. Lourde perte pour l'armée nationale nigérienne.
Bonjour
Ousseynou.
Bonjour à vous. Alors, vu du Sénégal, on touche du bois parce que le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Et le Sénégal n'est pas non plus touché par les attaques terroristes, même s'il y a une psychose. Il y a des contrôles dans tous les lieux fréquentés, notamment par les étrangers. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un bien mauvais cadeau qui est fait là au président Issoufou, qui a fait preuve d'une détermination à rester un démocrate en disant qu'il ne se présenterait pas pour un énième mandat, un troisième mandat l'année prochaine. Notre candidat de l'opposition à la présidentielle nigérienne de l'année prochaine est bien bardé de certitudes, je trouve, quand il pense que cette situation-là pourrait être réglée par la force militaire. Ce que je crois, c'est que la France, qui vient en soutien au pays du Sahel, fait sa part du job. Le président Macron a bien sûr, c'est vrai, annulé la réunion de Pau, mais il n'en a pas moins maintenu sa visite pour la Noël à la Côte d'Ivoire, qui elle non plus, c'est vrai, n'est pas touchée par les
mais
attaques.
Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour passer Noël avec des
oui,
éléments français stationnés. Ça n'a aucun rapport avec
dans tout le Sahel. Ce que je voudrais dire, peut-être pour terminer, comme réaction, première réaction en tout cas, c'est que je pense qu'il faut trouver des solutions plus structurelles à cette crise djihadistes dans les pays du Sahel que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Quand je prends le Niger ou le Mali, ce sont des pays d'une superficie immense. Le Niger est juste séparé du Sénégal par un pays et il n'en touche pas moins à ses frontières, le Tchad et l'Algérie. Je crois que la question de la partition de ces pays-là, comme ça a pu se poser, comme pour le Sud-Soudan et le Soudan, qui se sont séparés et ça n'a pas empêché la terre de tourner. L'Érythrée s'est séparée de l'Éthiopie, ça n'a pas arrêté l'Afrique de tourner. Je crois qu'il faut poser sur la table la question de la partition et arrêter avec le tabou de l'inviolabilité, de l'intouchabilité des frontières africaines héritées de la colonisation. Cette situation sécuritaire ne se réglera pas de façon militaire.
Merci beaucoup.
Yacouba, un mot sur le G5 Sahel que vous avez évoqué tout à l'heure. Certains experts désigne aujourd'hui ce G5 Sahel comme un simple projet sans la moindre capacité de résultat. On sait bien que la force n'est pas encore opérationnelle. Il y a encore des questions de financement. Est-ce que, concernant le Niger, est-ce que ce G5 Sahel ne risque pas de distraire le Niger de ses réalités intérieures quand on sait que le président Issoufou s'est abondamment investi dans ce projet, tiens.
Oui, le G5 Sahel est un des projets, je pense, importants pour les pays du Sahel. Je vous dis que l'idée de base, elle est forte et elle est formidable. C'est qu'à partir du combat que le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria ont mené face à Boko Haram, il a été admis que c'est un exemple de coopération entre les États et que cela a permis de réduire un moment les capacités de Boko Haram. Les États ont estimé qu'on pouvait dupliquer cette initiative au Sahel et avoir des capacités de manœuvre plus larges, parce que c'est nous qui sommes concernés, c'est nous qui connaissons nos pays, et nous avions dit que si nous pouvions mutualiser nos forces, nous pouvions être plus efficaces que d'autres formes d'organisation de coopération militaire. Malheureusement, il faut beaucoup d'argent pour ce projet, et nous avions mobilisé les 5 000 hommes qui devaient passer à 10 000 hommes. Malheureusement, sur le point de vue du financement, nous n'avons pas été capables d'avoir nous-mêmes les propres ressources et d'avoir ces ressources avec les partenaires. Mais si le G5 était mis en place et opérationnel, je vous promets que la situation aurait été totalement différente.
Ce n'est pas le cas.
Le G5 ne peut pas distraire les États de leur mission sur les autres parties du territoire parce que c'est intégré comme un élément de la défense commune. Donc, la difficulté du G5, c'est les capacités de les financer, de le mettre en œuvre. Et je pense que ça fait partie vraiment des projets qui auraient changé la configuration.
Des financements attendus de l'extérieur, essentiellement, quand même. Des financements attendus de l'extérieur.
Ce que j'ai dit, c'est quand même, c'est là la difficulté. Et si on adosse un projet de défense sur des ressources attendues de l'extérieur, on crée les conditions que ça ne puisse pas avoir le jour. Et c'est ça qui est arrivé avec le G5. Une belle idée qui pourrait ne pas avoir le jour.
Merci, monsieur le ministre. Et en quelques secondes, le président Issoufou a tenu une réunion du Conseil national de sécurité. À quoi faut-il s'attendre, peut-être dans les mois à venir? Est-ce que vous pensez que cela pourrait aboutir à de nouvelles mesures, à une stratégie visant à rendre la lutte contre les groupes armés plus offensive, comme vous le souhaitez?
Moi, c'est ça mon souhait, c'est que la stratégie soit nouvelle et qu'elle soit offensive. Et je pense que forcément, on ira à cette option. Maintenant, les réunions du Conseil de sécurité sont assez régulières. Donc, je pense qu'à partir seulement de cette réunion, je ne sais pas s'il y a des choses nouvelles qui vont produire.
Vous n'avez pas d'espoir ?
Aujourd'hui, le traumatisme lié à l'attaque d'Inates de derniers jours va forcément nécessiter quelque chose de nouveau dans le comportement ou dans la conduite de la défense au Niger. Je suis convaincu qu'il y aura quelque chose. En tout cas, c'est mon souhait parce que l'opinion a besoin d'être réconfortée par rapport à cette situation-là.
Merci.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin Ibrahim Yacouba, ancien ministre du Niger et président du Front Patriotique. C'est un mouvement de l'opposition au Niger. Et notre confrère invité au téléphone, Ousseni Narguey, fondateur du site sénégalais track.sn. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de l'Algérie à présent. Les électeurs algériens étaient appelés aux urnes ce 12 décembre. Pour élire le prochain président, 5 candidats en lice, tous issus du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et selon Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, le taux de participation au niveau national s'établissait à 41% à l'issue du vote, et celui des Algériens de l'étranger et s'élevait seulement à 8,69%, des chiffres qui signalent le plus faible taux de participation à une présidentielle de toute l'histoire de l'Algérie, une situation électorale fortement liée, on le sait, au mouvement de contestation, le Irak, déclenché en février dernier, et dont les acteurs ont jusqu'au bout rejeté cette présidentielle considérée comme un recyclage du régime dont ils continuent de réclamer le démantèlement. Une présidentielle dont le principal artisan aurait été le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Les résultats communiqués ce vendredi donnent vainqueur dès le premier tour, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, candidat sans étiquette, quoique membre du comité central du Front de Libération Nationale, le FLN. Le nouveau président donc élu a été un des premiers ministres de Bouteflika et il aurait obtenu 58,15% des suffrages. On va écouter un élément sonore d'ambiance avec vous, Liliane. Avec
oui, Francis, Africa. Et c'est justement pour en savoir plus sur qui est le nouveau président algérien. Et Mohamed Haris Kimmer, le correspondant de BBC Afrique à Alger, nous donne plus de détails. Il a été joint par Armand Moukoboudombo.
Abdelhamid Tebboune, il a 74 ans. C'est un homme qui est connu surtout pour avoir conduit le plus grand chantier de l'Algérie sur Bouteflika. C'est celui concernant la construction de 2 millions de logements à travers le pays. Il a été plusieurs fois ministre et une fois premier ministre pendant seulement 3 mois avant d'être limogé par le président Bouteflika. D'ailleurs, après son limogeage, il avait déclaré le jour même qu'il restait fidèle au président Abdelaziz Bouteflika.
Comment se présente Alger quelques minutes après la proclamation de ses résultats?
La manifestation des hiérarchistes, comme on les appelle ici, a déjà été entamée. Elle va à grand. Juste après la prière hebdomadaire de vendredi, ils vont continuer à manifester.
Oui. Ouais. Alors, on va peut-être demander un premier commentaire à Ousseline Argueil. Alors, nous sommes le vendredi, le lendemain de cette élection. Et en Algérie, certains disent déjà qu'on vient de faire élire un président sans peuple. Et selon vous, Ousseline Argueil, est-ce qu'il s'agit là d'une élection qui va rester juste une séquence, un épisode dans cette crise qui continue malgré tout?
Je crois que dans le commentaire que vous avez fait, Francis, vous avez dit ce qu'il en était déjà. Ce président élu septuagénaire, et ancien ministre, ancien premier ministre, c'est une perpétuation du système Bouteflika que le chef d'état-major Ben Salah, qui a insisté pour que cette présidentielle-là se tienne sans l'onction populaire, peut considérer comme une victoire. Mais je crois que ce n'est que partie remise pour que la rue en Algérie en finisse d'en découdre avec le régime Bouteflika qui n'est pas mis à terre avec cette élection d'un nouveau président de la République. Je pense que c'est une élection pour rien. On a insisté pour qu'elle se tienne ce 12 novembre alors qu'elle n'avait pas lieu d'être du fait que la population avec le mouvement Irak dont vous avez parlé est totalement opposée à ce qu'on perpétue le système avec les mêmes hommes qui l'ont servi depuis l'indépendance quasiment obtenue en 62. Donc vraiment, je crois qu'il y aura certainement un troisième tour.
Une élection pour rien, dites-vous. Hein. Ibrahim Yacouba, monsieur le ministre, quelle sera selon vous la légitimité de ce président issu d'une élection massivement rejetée par les électeurs? 60% du corps électoral n'est pas allé voter, en tout cas si on suffit au taux de participation annoncé.
Bon, je ne sais pas, je pense que c'est les Algériens qui démontreront maintenant si la légitimité est suffisante. En tout cas, il y a un mouvement révolutionnaire en cours en Algérie, un mouvement très fort qui a permis de mettre fin au régime de Bouteflika et qui se poursuit pour que l'ensemble du système soit changé et qu'ils aient de nouvelles espérances avec de nouveaux dirigeants. Il y a une élection qui s'est faite presque à contre-sens du mouvement qui est en cours. Mais vous savez que la politique, souvent, ce n'est pas simplement les volontés, souvent il y a un rapport de force du système. Donc je ne connais pas l'avenir de cette élection-là, mais ça va se déterminer à partir du comportement du mouvement algérien tel qu'il va le faire. Nous, de loin, comme ça, c'est difficile pour nous de prévoir...
Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez vous mettre à l'abri? Il y a beaucoup de bruit autour de vous qui perturbe l'écoute. Okay. Là, c'est... Allez-y, essayez
là,
de...
C'est bon?
Oui, allez-y. Poursuivez vos propos, s'il vous plaît.
Ok. J'étais en train de dire que la fortune de cette élection-là, qui intervient à contre-sens d'un mouvement populaire important, est bien enracinée, parce que c'est quand même entre 44 et 45 semaines de mouvement. Je ne sais pas si en Afrique on a eu des situations comme celle-là. Ça prouve que le mouvement est structuré, il est tenace dans la société algérienne. Et je pense que c'est la pérennité du mouvement qui va déterminer le sort de cette présidence-là.
Et au regard du contexte, Francis parlait des manifestations et aussi même des conditions dans lesquelles s'est tenu ce scrutin, largement boycotté, taux de participation très faible. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce résultat annoncé par l'autorité de régulation des élections ? Autrement dit, est-ce que le résultat, le coup KO du nouveau président, est-ce qu'il n'a pas été dicté en réalité juste par l'impossibilité quasi certaine d'organiser un éventuel second tour ?
Oui, j'ai lu ça et j'ai entendu beaucoup d'experts affirmer que cela a été organisé pour que le pouvoir en place s'épargne les corvées de l'organisation du deuxième tour. Mais je ne suis pas témoin direct. Moi, mon propos, c'est de dire que c'est une élection qui vient à contre-sens. Lorsque un mouvement populaire de cette nature, de cette durée et de cette capacité se développe, je pense que le bon sens politique aurait voulu que les cartes soient complètement rebattues et qu'un nouveau cadre puisse être mis en place.
Quand vous parlez de cartes rebattues, c'est-à-dire que vous voulez dire quoi précisément ? Puisque le problème des manifestants, c'est...
le mouvement populaire algérien qui souhaite que ça soit des nouveaux hommes, des nouvelles structures politiques en totale rupture avec l'ancien système, que ce soit ces forces-là et ces hommes-là qui compétissent pour aller sur des nouvelles bases. Mais la volonté de maintenir quoi qu'il arrive des hommes du système, et j'ai dit à contre-sens du mouvement populaire qui se développe en Algérie.
Voilà. Une question pour Ousseline Arguey. Ousseline Arguey, alors on sait que le général Gaïd Salah, le chef d'état-major, est devenu l'homme fort du pays depuis plusieurs semaines. C'est lui qui a œuvré à la tenue de cette présidentielle contestée. Quelle pourrait être, selon vous, désormais sa conduite vis-à-vis de la situation qui vient d'être créée ?
Je crois que le véritable enjeu de cette élection présidentielle, c'était le maintien de la suprématie de l'armée et des généraux algériens sur l'appareil politique algérien. Ils sont non seulement la force militaire, mais ils sont une force économique aussi, ces généraux algériens, dans le sens où on sait qu'ils sont propriétaires d'usines, propriétaires de champs agricoles. Donc je crois que c'est un homme de paille, en tout cas, je le crois, que Salah croit avoir mis en place avec cette élection d'un nouveau président de la République. Ce qui était en jeu, c'est que la mainmise sur, j'allais dire, la société algérienne tout entière de la nomenclature militaire ne soit pas remise en cause. Donc je crois que son attitude sera de rester dans l'ombre et d'essayer de continuer de tirer les ficelles et d'être associé à la prise de décision par la présidence de la République, comme ça a toujours été le cas en Algérie.
Donc vous dites peut-être que le nouveau président va régner, mais c'est l'armée qui continuerait de gouverner.
C'est exactement ça, parce qu'il y a une légitimité historique en Algérie qui se tire de la guerre de libération avec le FLN et qui continue 50 ans après le mythe de cette guerre de libération-là et de la légitimité qui en est tirée continue de prospérer. Donc effectivement, je crois que le nouveau président sera là pour inaugurer des chrysanthèmes, mais il ne pourra pas prendre de décision majeure sans en référer au Collège des généraux.
Francis, je voudrais poser une question, peut-être à un autre invité pour terminer. Monsieur Yacouba, je ne sais pas si vous avez le même sentiment. On a l'impression qu'il y a une très faible mobilisation d'organisations sous-régionales, l'Union africaine ou encore d'organisations comme la Ligue arabe dans cette crise algérienne. Le sentiment qu'on a, c'est que la communauté internationale, qui se résume souvent à 4 ou 5 pays, dont les États-Unis et la France, marche un peu comme sur les œufs avec l'Algérie.
Oui, c'est la réalité. L'histoire de l'Algérie est une histoire faite de refus des ingérences dans les questions intérieures. Et vous avez
Mais après plusieurs mois de crise, Francis parlait de plusieurs semaines de manifestations, plusieurs mois de crise, est-ce qu'il n'est peut-être pas temps que la communauté internationale essaye de proposer d'autres solutions, puisque les Algériens eux-mêmes n'arrivent pas à sortir de la crise jusqu'à présent ?
Mais vous savez que la communauté internationale, elle agit toujours selon le pays. C'est toujours une intervention que les journalistes souvent appellent à géométrie variable. C'est ça la réalité de la communauté internationale. Et je pense que l'histoire de l'Algérie, le comportement de l'Algérie depuis l'indépendance, font que l'Algérie n'accepte pas les ingérences étrangères. Et d'ailleurs, vous avez vu aux premières heures du mouvement, le chef d'état-major des armées avait fait une remontrance à un ministre français qui avait parlé de la question de l'Algérie.
Le refus de l'ingérence, comme vous le dites, est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient pour la paix en Algérie ?
Pour l'Algérie, je ne sais pas. Moi, par principe, je souhaite toujours que les peuples s'organisent, se mobilisent et se déterminent le destin qu'ils veulent. Moi, je ne crois pas à la pureté de la communauté internationale au point de croire que lorsqu'elle intervient, c'est toujours vertueux et que c'est toujours dans le bon sens. Ce n'est pas vrai, madame. L'histoire contemporaine et l'histoire des interventions de la communauté internationale en Afrique montrent que c'est toujours souvent à dessein et qu'ils se sont très souvent trompés. Moi, c'est ma formation ou déformation politique qui m'amène à dire
et
que le peuple syndical et militant m'amène à croire que les peuples sont capables de se déterminer leur propre destin. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas mis l'énergie nécessaire.
On va retenir que c'est une formation, non pas une déformation, monsieur le ministre.
Bien, voilà. Donc, c'est ma formation qui fait que je crois plutôt à ça qu'aux interventions de la communauté internationale. Là, on parle du Sahel, mais nous avons tout ça, ou une grande partie de cela, est née à partir de l'intervention de cette même communauté internationale qui a détruit la Libye, qui ne s'est pas occupée de faire en sorte qu'après la destruction du régime de Kadhafi, on devrait reconstruire un État. On n'a pas reconstruit un État et le magasin d'armes a servi à alimenter la guerre au Sahel.
Et déstabiliser la région. Francis,
ouais. Sans transition, vous allez vous parler des biens mal acquis.
Oui, condamné il y a 2 ans en première instance dans l'affaire des biens mal acquis, le vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président Obiang Nguema est jugé en appel pour cette affaire, la première du genre en France. Il est accusé d'avoir utilisé les fonds publics de son pays pour s'offrir des biens immobiliers et immobiliers et de s'enrichir de manière illicite. Le procès étant en cours, nous n'entrerons pas, bien sûr, dans le fond de l'affaire. D'ailleurs, nous n'en avons pas la compétence, hein, Francis. Je voudrais demander à notre invité, ça tombe bien puisqu'il parlait d'ingérence, la question qui revient souvent c'est, sur cette affaire, c'est que est-ce que la France a ou non la légitimité, la justice française a-t-elle ou non la légitimité d'abord d'enquêter sur ce genre d'affaires et de juger de tels actes concernant des personnalités africaines ?
Oui, vous savez qu'il y a eu une tendance dans les années 2000 ou la fin des années 90 qui a fait naître un principe dans certains pays européens de dire qu'ils vont s'accorder un principe de l'universalité de la justice.
De compétences universelles.
De compétences universelles, absolument. Donc c'est sur cette base, sur ce principe-là qui était en vogue il y a quelques années, que certains pays se sont accordés à le faire. Je pense que l'un des pays les plus emblématiques, c'était l'Espagne à un moment, qu'il avait quasiment mis en œuvre. Donc c'est au nom de ces principes maintenant, comment l'apprécier ? Il y a peut-être deux façons, non ? La première, c'est de dire toutes les fois que les actes délictueux ou criminels sont commis et que si une juridiction ou un pays quelque part peut y mettre fin, c'est la justice qui progresse. Et en même temps, ça montre que dans nos pays, là où les crimes se commettent, nous n'avons pas des institutions juridiques fortes et puissantes capables de se saisir de ces questions et de réprimer le mal partout. Parce que les faits sont avérés. Il y a une grande corruption des élites africaines. Il y a un détournement massif de nos ressources qui se retrouvent souvent à l'étranger. Mais cela se sait à partir de nos pays. L'opinion le sait, les hommes le savent. Les preuves quasiment existent. Et en plus, dans nos pays, il y a des juridictions qui sont censées être...
Donc vous êtes favorable à de telles initiatives, de tels procès ?
Moi, mon propos, c'est de dire que je suis favorable à poursuivre la répression des crimes partout où cela est possible. Ce que les gens contestent, madame, ce n'est pas que ce soit le pays. Les gens ont souvent l'impression de dire, est-ce que ce n'est pas des justices orientées ? C'est ça le mal. Mais le principe, pour moi, il est pertinent. Si nos États ne sont pas capables de réprimer ces crimes,
Permettez-moi de revenir sur le sujet qui nous intéresse, Monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes d'accord que la justice française enquête et juge des personnalités africaines suspectées de délits dans leur pays?
Moi, je souhaite que ça soit une compétence qui est attribuée à une organisation à laquelle tous les partis sont adhèrent ou sont d'accord, plutôt qu'à des pays. Je préfère que ça soit que les pays qui s'organisent pour mettre en place des institutions auxquelles tout le monde adhère. Il y a des juridictions pour juger des crimes de sang ou pour juger les litiges des frontières. On peut avoir des juridictions aussi pour juger et réprimer le vol, le détournement et la corruption dans tous les États.
Une question pour Ousseni Nargueye. Alors, on parle de biens immobiliers et de biens mobiliers accumulés à l'étranger, donc en France. Alors, ma question est celle-ci. Au-delà de la procédure judiciaire, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger, surtout sur cette tendance chez certains dirigeants africains, à aller enrichir les pays déjà développés plutôt que d'investir leurs avoirs, illicites ou pas d'ailleurs, dans leur propre pays?
Oui, absolument, Francis. Mais je voudrais faire un petit retour en arrière pour dire déjà que notre invité ministre candidat à la présidentielle au Niger me semble un peu gêné aux entournures. Il y aurait une bonne ingérence et une mauvaise ingérence. Je fais un petit rappel pour dire que, d'accord, le patriotisme, le nationalisme, le panafricanisme, c'est bien, mais le réalisme, c'est encore mieux, et que les grandes puissances étrangères, dans des guerres asymétriques, n'ont jamais vaincu, que ce soit l'Amérique, les États-Unis au Vietnam ou la France en Indochine. Cela dit, effectivement, vous avez raison, il y a une propension de nos élites africaines à non seulement détourner de l'argent, mais ne pas en faire profiter nos économies, aller l'investir dans des pays industrialisés et dans des paradis fiscaux, c'est à déplorer, mais je crois que c'est à l'image finalement du comportement de nos peuples qui sont dans l'immobilier et dans le commerce, alors que l'immobilier et le commerce ne développeront pas le continent noir.
Mais Hussein, nous aussi, on va dans cette logique, est-ce qu'on ne risque pas de nous accuser d'encourager la distraction des fonds publics? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que si ces élites détournaient et investissaient si c'est dans leur pays, ce serait moins gênant, ce serait plus acceptable.
Ce que je dis, c'est que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Vu du Sénégal, on s'est arrogé avec le mandat de l'Union africaine le droit de juger un président qui était parti avec un avion et des milliards du Tchad. C'est Issé Nabré qui est aujourd'hui condamné à perpétuité. Je veux dire que de ce point de vue-là, le Sénégal n'a pas à rougir parce que le pays a pris ses responsabilités en face de la communauté africaine. Mais ce que je dis, c'est que une fois de plus, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Les dirigeants sont l'émanation du peuple. Et je suis désolé pour l'Afrique centrale, mais quand je regarde ce qui se passe avec Obiang Nguema Junior, qui a eu le titre de vice-président dans son pays, ça me fait penser à ce qui se passe au Gabon, où Ali Bongo a essayé de faire oublier qu'il était le fils d'Omar, pour à la fin nommer comme coordinateur des affaires présidentielles son fils Valentin. Ça me fait penser enfin à ce qui se passe avec la RD Congo, où Tshisekedi, bien qu'il soit opposant, est finalement un président qui a été mis là par confort et par complaisance. Voilà, c'est dommage pour l'Afrique centrale qui est un peu à la traîne par rapport à l'Afrique de l'Ouest dont nous parlons, il faut le dire d'un point de vue d'avancement démocratique. Je ne dis pas que c'est bien de détourner des fonds pour autant qu'on les investisse dans son pays, mais je dis quitte à les détourner, autant les investir sur le continent et dans son pays.
Merci.
Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui travaille dans une chocolaterie, on ne peut pas l'empêcher de se sucer les doigts.
Ibrahim Yacouba, peut-être répondre à ce message de l'État qui dit la lutte contre le terrorisme est une nouvelle manière pour l'Occident de piller l'Afrique. C'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment et qu'on lit sur les réseaux sociaux. Quelle réponse vous avez donc à émettre pour les Africains à ce sujet?
Oui, mais avant, je voudrais dire un mot sur la question des biens mal acquis détournés et par rapport auquel on dit qu'il aurait été préférable de les investir dans nos pays. Mais non, les chefs d'État ne sont pas des investisseurs. C'est des dirigeants qui doivent servir les communautés. L'argent qui doit être investi, c'est l'argent public dans le budget qui est bien géré. Lorsqu'ils volent, il faut les punir, il faut les poursuivre de quelque manière que ce soit. Je pense que le débat politique ne peut pas envisager une situation comme celle-là. C'est comme si on pouvait penser que c'est pas bien. Mais malgré tout, si ça arrive, c'est pas grave s'ils investissaient à l'intérieur. Non, ils ne sont pas des investisseurs. S'ils l'étaient, ils auraient créé des entreprises ou des sociétés ou des fonds souverains. c'est des serviteurs de l'État. Pendant le mandat, ils doivent veiller à ce que le bien public.
Et la question de Francis.
Rapidement, donc, sur ce sentiment.
La question de Francis, non, je l'entends, c'est là l'expression de l'incompréhension ou des refus de l'opinion publique des forces étrangères dans notre espace. En fait, c'est comme cela, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord avec leur présence, et à partir de cela, il est développé beaucoup de versions. Ce que vous avez dit là, souvent, ils illustrent ça par des images plus ou moins vraies, ou même souvent totalement fausses. Moi, je conçois cela uniquement comme l'expression d'un refus de la présence des forces étrangères dans notre espace.
C'est un ressentiment.
Un ressentiment, voilà, c'est le terme approprié à mon avis.
Merci beaucoup, Yacouba, d'être venu. Hein, merci, ancien ministre nigérien, ancien ministre notamment nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Et vous êtes président du parti Front Patriotique, parti de l'opposition au Niger. Merci à Ousseynou Larguey qui est intervenu au pied levé, si je puis dire, fondateur du site
track.sn.
L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée, à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Liliane.
Bon week-end à vous, Francis Laloupo, et à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Au revoir.
Au revoir.